Alors en quelque sorte, quand je priais au Seigneur, mais envoie-moi dans les nations, j'étais prêt à partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et le Seigneur m'a envoyé dans le canton de Vaud. J'ai prié, je dis, Seigneur, t'as dû te tromper. Il m'a dit, non, aime les Vaudois. Il m'a même donné une épouse vaudoise. Vous vous rendez compte? L'adaptation culturelle, j'ai dû apprendre la langue. Est-ce que vous savez comment ce qu'on dit en vaudois, l'audiovisuel? Vous connaissez ça? L'audiovisuel en vaudois? Écoute voir. Bref. Ceux qui viennent de ce coin-là, que je ne nommerai pas, vous savez de quoi je parle. Bref, depuis quelques années, 5 ans maintenant, je suis responsable de jeunesse en mission suisse romande, tout petit territoire, mais qui est une grande bénédiction pour le monde. C'est 150 personnes à plein temps, 150 jeunes qui sont prêts à donner une partie de leur vie, de leur carrière, de leurs finances, pour être ici, pour être une bénédiction pour le monde. Et j'ai le privilège de travailler avec une équipe absolument fantastique qui donne tout ce qu'ils ont pour servir le Seigneur. C'est vrai, peut-être que je pourrais vous montrer une petite photo de ma famille pour ceux qui me connaissent depuis 25 ans. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors, tout à gauche, on voit Rémi le petit, mais qui est plus grand que sa mère maintenant, Rémi, Nathan, Sylviane et moi. Rémi, 13 ans, Nathan, 15 ans. Voilà, ça pousse, des vrais petits ados, ça commence à chauffer dans les chaumières. Jeunesse en mission. Jeunesse en mission, qu'est-ce qu'on fait en deux mots? On fait de l'évangélisation. Il y a environ 4500 personnes aujourd'hui, tous les jours de l'année, dans le monde, qui partagent l'évangile. Des gens de presque tous les pays du monde, dans presque tous les pays du monde. On fait de l'évangélisation, on fait aussi de la formation, et c'est une de nos spécialités ici en Suisse romande. À peu près 80-85% de nos efforts sont de la formation de jeunes. On a à peu près 250 à 300 jeunes qui viennent en Suisse, en moyenne 40 à 50 pays. Ils viennent pour 3 mois, puis après on les envoie dans les nations pour quelques semaines ou mois, ou années ou décennies de mission. Et une troisième chose qu'on fait à Jeunesse en Mission, c'est de l'aide humanitaire. On va aider les plus pauvres, on va construire des maisons, on va aider dans des cas de tremblements de terre ou dans des cas de désastres naturels. C'est quelque chose qu'on aime faire. C'est deux mains de l'évangile. D'un côté, parler de Jésus, mais de l'autre côté, d'aider concrètement, d'être des gens vraiment incarnés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet Jeunesse en Mission. Vous faites juste Google Jeunesse en Mission, vous trouverez ça, premier site. Il y a plein d'informations. Et une des choses que vous pouvez trouver sur cette page de Jeunesse en Mission, c'est des clips. C'est des clips vidéo. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. J'ai dit vidéo. Quand on dit vidéo, ça marche? Vidéo? Non, c'était pas ça. Quelqu'un a dû appuyer sur le bouton. Une des choses qu'on a sur ce site, c'est des petites vidéos qu'on a réalisées. 26 jeunes qui sont rentrés des nations. Et on leur a dit, dites-nous comment c'était. Et puis un de ces jeunes, c'est le fils de quelqu'un qui est dans cette salle, c'est le petit-fils d'un couple qui est là depuis le siècle passé. C'est vrai, je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir cette vidéo qui dure 2 minutes 30? Ah, c'est cool. Ouais, très bien. Merci.
Salut, je m'appelle Nicolas Grobetti, je viens de Genève et je suis là pour te parler de mon école de disciples que j'ai fait à Hawaï, plus exactement à Kona, sur la plus grande île en fait d'Hawaï. Et je vais te parler en fait de ce premier temps qu'on a eu dans cette école de disciples. C'est la formation et ce qui est vraiment super dans ce temps de formation, c'est les échanges qu'on a avec chacune des personnes qui est là-bas. On est tous à un niveau différent et ce qui est fou, c'est comment Dieu, Ils travaillent chacun et comment ils travaillent notre caractère dans cette première partie. Et c'est ce qui nous équipe justement pour ensuite partir en mission et utiliser justement la personnalité qu'on a pour apporter son message. Et nous, notre groupe, on est parti au Togo dans un monde complètement différent qu'Hawaï. Tu imagines, genre la plage, et là t'arrives, c'est tout sec. Mais par contre, on a rencontré des gens juste incroyables, quoi. Ils ont rien, mais ils sont prêts à te donner tout. C'est ça qui est fou, ils ont rien mais ils te donnent tout. Et ce qui était incroyable, c'est surtout aussi comment Dieu a pu nous utiliser, nous chacun différents, avec nos bons côtés et puis nos mauvais côtés, pour apporter sa parole, pour servir les gens là-bas et surtout pour leur donner le message de la vie que Jésus nous a donné. Et toi, alors qu'est-ce que t'attends, quoi? Moi, j'aurais vraiment tout simplement te dire que c'est aussi un moment pour toi, tu vas pouvoir vivre des choses incroyables. Et si tu te poses des questions, Dieu te donnera les réponses. Sois-en sûr.
Voilà. Merci beaucoup l'équipe technique, bravo, félicitations. Je suis venu au dernier moment avec ma vidéo, ils ont sauté dessus, ils ont réussi à le faire, ça va être bien. Je vois qu'il y a des gens professionnels, et ils arrivent même à ne pas se battre sur... quel outil ils vont utiliser, est-ce que c'est Mac ou PC. Mais juste pour vous dire, entre Mac et PC, la chose qui est claire, c'est que moi, ça me rappelle toujours simplement que, voilà, on est racheté, on a péché, et puis aujourd'hui, Jésus est ressuscité, donc je me rappelle de mon péché, mais je suis sauvé. Une autre chose qu'on fait avec Jeunesse en Mission, c'est des bouquins, des CD. Un des livres que j'ai trouvé au stand librairie, je sais pas comment vous appelez ça, là-bas. Un petit livre de Loren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission. En fait, il faut pas le dire, mais ça a été écrit pour des gens qui aiment pas lire. Donc c'est très simple. Donc si vous aimez pas lire, c'est super pour vous. Puis si vous aimez lire, vous le lirez en quoi? 2 heures. Bref, un super livre, Loren Cunningham, qui explique un petit peu comment il a démarré Jeunesse en Mission. Le thème de ce matin que j'aimerais aborder, c'est « Soyons, vous, moi, nous, l'Église, soyons une bénédiction pour le monde. » C'est super de se réunir le matin, le dimanche matin. Bravo, vous avez même bravé la pluie, vous êtes venus en avance, l'équipe de louanges. Certains vont partir en retard parce que vous saluerez tout le monde, puis vous aimez être le dernier. Bravo d'être là. Mais ça suffit pas. Jésus nous a pas appelés à être simplement des hommes, des femmes transformés par son amour. Il nous a appelés à être des bénédictions. Des bénédictions ici, maintenant, et des bénédictions pour l'éternité. En fait, tout ça, ça vient d'un certain bonhomme qui s'appelle Abraham. Ou plus tard, il s'est fait appeler Abraham. Abraham, ça date de presque 4000 ans. Pour être précis, 3933 ans, il semblerait, en tout cas, c'est ce que ma Bible me dit, qu'il a reçu une parole de ce Dieu étrange, puisque lui venait d'une famille pas du tout croyante. Et Dieu lui dit, bouge, fais quelque chose. Sors de ta zone de confort, sors de ta maison, sors de là où tu as l'habitude, là où tu es à l'aise, là où tu es confortable. Sors et sois une bénédiction. Bouge, ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'argent, mais bouge, sors. Et Dieu lui a dit, si tu fais ça, alors je vais faire une alliance éternelle avec toi. Je serai avec toi, je serai avec toi. Étrangement, Jésus reprend ce texte en disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il y a une alliance, il y a deux parties, il y a un engagement d'un côté comme de l'autre, celui d'Abraham et celui de Dieu. Comme pour nous aujourd'hui, il y a deux parties dans cette alliance, il y a nous et il y a lui. Lui avec un L majuscule et nous avec un N minuscule de minuscule. Je vais vous lire Genèse 12, les 3 premiers versets, mais je vais vous les lire un peu comme ces livres, je ne sais pas si vous en avez... chez vous, à la maison, peut-être même aux toilettes. Ces livres, on les regarde et puis c'est des images toutes floues, toutes bizarres. Et puis il faut faire un petit exercice avec les yeux pour voir en 3 dimensions. Vous avez déjà vu ça? En fait, moi, j'ai jamais rien réussi à voir en 3 dimensions dans ces livres. Parce qu'en fait, j'ai un œil qui voit pas très bien. Et puis seulement il y a 2 ans, j'ai été chez un ophtalmologue et il m'a trouvé une solution. J'ai des lunettes que j'ai oubliées dans la voiture qui me permettent à voir en 3 dimensions. Et franchement, c'est génial. Ça tombe assez bien, puisque maintenant, il commence à avoir des films en 3 dimensions. Franchement, c'est une révélation pour moi. Je vois en trois dimensions. Vous, ça vous paraît normal, vous avez eu ça depuis tout le temps, mais moi pas. Tout d'un coup, waouh, il y a du volume. Surtout quand je me regarde dans la glace. Genèse 12, 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un tout petit bout du verset, puis après je vais vous dire ce que je crois que ça veut dire. On va faire un peu de ping-pong, c'est pour ça que je parle en trois dimensions. Ça va faire un bout, un bout, un bout, un bout. Alors peut-être ça va vous déstabiliser un petit peu, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire les textes en trois dimensions, mais vous allez voir, je répéterai ça tout à l'heure, vous allez tout d'un coup voir ce que Dieu est en train de dire à Abraham en trois dimensions. Genèse 12, 1, Dieu dit à Abraham. Dieu parle, mais Dieu parle. On a un Dieu qui parle, c'est une des premières choses que j'ai réalisées quand je suis devenu chrétien, c'est que Dieu m'a parlé. J'avais juste levé la main, j'étais pas sanctifié, je connaissais pas la parole de Dieu, j'avais jamais été à l'église et Dieu a commencé à me parler personnellement, c'était dingue. Dieu parle. Et quand vous lisez la Bible, presque tous les personnages qui sont dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et qui ont fait quelque chose de significatif, c'est sur la base d'une parole réma de Dieu qui leur dit « Boum, vas-y, avance, fais quelque chose, je te le dis, avance. » Dieu parle. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie. » Moi, je vois ça comme « quitte ta culture, ce que tu crois être le mieux. » Je vous parlais de l'exemple des Vaudois. Vous êtes d'accord, si on devait comparer, ce qui n'est pas très bien. Mais si on compare... Ou alors, si on compare la couleur de la peau, c'est qui est mieux, c'est qui est moins bien? C'est où qu'on est le plus confortable? Ou si on compare les différentes cultures, les cultures latines, les cultures nordiques, les Australiens, les Africains du Sud, les Norvégiens, les Finlandais, c'est quoi qu'on préfère? C'est où qu'on se sent le plus à l'aise? Dieu dit à Abraham, quitte, sors. Tu crois que c'est le mieux? Moi, je vais te montrer quelque chose de nouveau. Va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père. C'est beaucoup plus facile d'être avec les beaux-parents. Disons, ça dépend lesquels, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus facile d'être dans son clan, dans son groupe. Et pourtant Dieu dit, sors de ta zone de confort. Et va dans le pays que je te montrerai. Souvent, quand Dieu parle, il nous demande une action. Pas juste... Ah ouais, merci de l'information, c'est gentil. Pas juste, ouais, j'écrirai ça dans mon journal. Ou pire encore, merci pour l'info, je vais mettre ça sur Facebook. Ce que Dieu aimerait, c'est qu'on bouge, c'est qu'on avance, c'est qu'on se déplace, c'est qu'on fasse un effort, qu'on se mette en mouvement. Va dans le pays que je te montrerai. 2, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » En quelque sorte, il dit, mais t'inquiète pas. Même si tu sors de ta zone de confort, je vais continuer à te bénir. Tu vas pas mourir. T'inquiète pas. Je rendrai ton nom grand. En deux mots, je crois que Dieu est en train de lui dire et de nous dire, les gens vont parler de toi. Ils vont voir comment tu vis, voir ton témoignage et ils vont dire de toi, tu connais Albert? Sacré bonhomme, hein. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais quand même, c'est la classe, ce gars. C'est la classe. Je rendrai ton nom grand. Pour ma part, Fleury, Olivier Fleury, comme un Olivier Fleury, si jamais, pour se rappeler. Pour ma part, j'ai fait la une des journaux au mois de février. Bon, j'ai pas pu choisir quel journal je voulais, hein. C'est eux qu'on choisit. C'était le matin, en première page. Parce que j'avais écrit un article sur la sexualité à l'école. Et puis le lobby homosexuel, le lobby de la sacro-sainte liberté de choix a explosé. Alors je peux faire mien ce texte, je rendrai ton nom grand. Grand aussi dans les persécutions, si on peut appeler ça de persécution. Et tu seras une source de bénédiction. Une source est censée couler tout le temps, est censée ne pas tarir, est censée être une bénédiction sur le long terme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si ça coule plus, Si ça coule plus chez toi, retourne vers ton Dieu pour qu'il fasse de toi à nouveau une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je sais que dans cette église, vous avez très à cœur Israël. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Priez pour la bénédiction sur ce pays, spécialement ces temps. Ça chauffe et ça va chauffer encore plus. Et la fin du verset 3, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je ne sais pas comment vous voyez Dieu, mais moi j'ai une relation avec Dieu qui est assez terre-à-terre, quelque part, si j'ose dire ça comme ça, assez presque fraternelle, si je peux le dire. Et moi j'ai l'impression que Dieu, quand il dit à Abraham, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi », il se penche vers Abraham puis lui dit, « Abraham, Tedak, on fait ça ensemble. Toi, tu fais ta part, moi, je fais la mienne. Toi, tu bouges et tu bénis, et puis moi, je multiplie par 10. Moi, je fais puissance 10 derrière toi. Mais j'ai besoin de toi. C'est toi qui vas ouvrir la porte et c'est moi qui vais bénir derrière. Est-ce qu'on a envie de cette collaboration avec Dieu ? Soyons une bénédiction. Je vous encourage, je m'encourage moi-même à être une bénédiction ici, maintenant. Ici, Genève, maintenant, dans ces prochains jours. Je discutais il y a quelques jours de ça avec un jeune homme qui travaille à la COP dans le rayon légumes. Et il me disait, tu sais, Olivier, c'est juste génial, mon boulot. Je dis, ah bon, pourquoi ? Non pas que j'ai quelque chose contre la COP. Par contre, les légumes... Je suis végétophobe, si jamais ça vous intéresse, vous voulez m'inviter à midi. Végétophobe, c'est l'opposé de végétarien. Moi, je mange tout, sauf les légumes. J'ai pas encore eu la révélation de Daniel. Ça viendra, ma famille travaille. Cet homme qui travaille aux légumes, à la COP, il aime être une bénédiction pour les gens qui viennent là et qui lui posent des questions. C'est quoi ce légume ? C'est combien le prix ? C'est où la touche ? Vous avez encore des petits sachets ? Il aime être une bénédiction. Je crois qu'il est à sa place. Je crois qu'on peut être une bénédiction même au rayon légumes, à la COP. J'ai engagé une secrétaire il y a quelques temps et elle a fait un apprentissage dans le secrétariat de commerce et puis elle revenait d'une école de disciples au Canada et puis elle voit tout d'un coup une annonce que cherchait une secrétaire. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « Je ne savais pas que je pouvais être une bénédiction en tant que secrétaire. » Et moi, j'aimerais vous encourager. Peu importe le métier que vous faites, faites-le avec Dieu et soyez une bénédiction. Réfléchissez, pensez, imaginez comment est-ce que vous pourriez être une bénédiction. Ce matin, en venant sur l'autoroute, j'habite tout près d'Aubonne. Tout d'un coup, on a dû ralentir très fortement, il pleuvait assez fort, et il y avait plusieurs voitures de police, ambulances, il y a une voiture qui s'est retournée, et je pense que le gars, j'imagine que c'est un gars, n'est plus de ce monde. La voiture était dans un état épouvantable, avait passé la barrière, et était complètement broyée. Soyons une bénédiction ici et maintenant. Parce que ça sera peut-être trop tard pour lui, pour elle ou pour toi. C'est peut-être le temps où le Seigneur te rappellera. Je vous encourage vraiment à être une bénédiction, d'aller, de bouger, de faire juste le pas pour dire « je peux vous aider ?» Aider à traverser, aider à porter des cabas, aider à je ne sais quoi, à monter les escaliers. Aider, aimer, c'est ça. C'est ça, c'est aimer. Et si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur pour vos voisins, les gens de votre village ou je ne sais quoi, il y a une bonne nouvelle. C'est que le roi d'amour a un stock illimité d'amour. Il suffit juste d'y aller et dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour. » Et puis si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne seront pas bénis. On ne sera pas bénis. Et au pire, ça sera jugé non-assistance à personne dans le besoin. Soyons une bénédiction ici et pour l'éternité, c'est mon deuxième point. Il y a quelques années, j'ai eu une révélation, une vision, je ne sais pas comment je peux dire ça. Tout d'un coup, dans ma tête, c'était clair, j'avais comme une petite histoire qui se passait. Est-ce que théologiquement, elle tient la route? Je ne sais pas. Je vous la soumets. J'avais l'impression d'être au ciel avec Jésus. J'arrivais là-haut, et il y a Jésus qui vient vers moi, puis qui me dit « Viens voir, j'ai un truc à te montrer. » Je dis « Oh, waouh, si Jésus veut me montrer un truc, je dis « Ben ouais, bien sûr. » Il me dit « Allez, viens, viens. » Puis on a commencé à se balader comme ça, on est passé dans les rangs, il y avait des escaliers qui montaient, d'autres qui descendaient, on est passé vers une fenêtre, une porte, et tout d'un coup on arrive dans une grande salle comme un salon où il y avait peut-être une fois, des fois, des rencontres où des gens dansaient. Je sais pas, c'était grand, avec du parquet au sol, des grandes baies vitrées. Il ouvre la porte, il m'invite à sortir sur le balcon. Je vais sur le balcon. Et je vois en bas, mais loin, là, c'était vraiment un sacré château, hein. Et je vois en bas une foule. Je pouvais pas les compter parce que j'avais pas le temps puis aucune envie. Et je dis à Jésus un peu naïvement, je dis, c'est qui ceux-là? Puis Jésus qui me répond, c'est ceux que tu as bénis. C'est ceux que tu as amenés dans mon royaume. Puis là, il y a l'émotion, mais le Seigneur, c'est pas moi, c'est toi, tu sais bien, moi j'ai pas fait grand-chose, c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui les as attirés, moi j'ai juste dit peut-être un mot ou deux. Puis Jésus qui me regarde, qui me dit, tu veux que je te montre autre chose? Ah ouais! Ah ouais, si c'est aussi bien, ah ouais! Et puis là, on repart, on ferme la fenêtre, on va ailleurs, on descend les escaliers, on remonte, on arrive dans une autre pièce superbe, illuminée, les portes s'ouvrent comme par enchantement, on arrive sur le balcon, on voit une foule. Puis je dis, Jésus, c'est qui ceux-là? Puis Jésus qui me dit, c'est tous ceux qui auraient pu rentrer si tu avais été une bénédiction, si tu leur avais parlé de moi. Pour ma part, je le prends pas comme une condamnation. Je le prends pas comme quelque chose qui m'attriste, qui me pèse ou qui me dit, aïe, 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 j'ai nouveau raté. Mais je le prends comme un encouragement. Le temps n'est pas fini. Aujourd'hui, je suis encore vivant. Aujourd'hui, je vais encore amener des gens dans le royaume de Dieu. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je peux pas faire ça tout seul. Si je fais ça tout seul, au bout d'un moment, j'en ai juste marre. J'ai peut-être envie, je sais pas, de regarder la télé, même que j'en ai pas, mais ou peut-être aller sur Internet ou faire quelque chose pour me détendre, parce que je me donne déjà suffisamment. Et pourtant, Seigneur nous fait un clin d'œil ce matin, puis nous dit, est-ce que tu as envie d'être une bénédiction? Est-ce que tu as envie de collaborer, de faire le travail avec moi et d'être une bénédiction? On n'est pas tous appelés à être des évangélistes, et d'ailleurs je ne sais pas si moi je suis un évangéliste. Peut-être, en tout cas, dedans ça grouille, il y a le feu. Mais on est absolument tous qui sommes dans cette salle aujourd'hui appelés à être des témoins. Pas plus, pas moins, surtout pas moins. Des témoins de l'amour de Dieu dans vos vies. C'est vrai? Vous êtes avec moi? Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Acte 1-8. Mais vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. La Judée, ça peut être la France voisine ou la Suisse allemande. Dans la Samarie, ça peut être même plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voulez que je vous dise un truc? Quand vous serez au ciel, avec moi, on dirait que certains sont plus proches que d'autres d'y arriver. Mais quand on sera au ciel, on va se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ce petit coup? Qu'est-ce que j'ai bien fait de témoigner? Qu'est-ce que j'ai bien fait de l'inviter pour un thé? Qu'est-ce que j'ai bien fait de lui porter son cabas? Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il y a un risque? Le risque, c'est non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger de mort. Et puis pas juste de mort éternelle. Si ce matin, en venant dans la voiture, cette voiture avait eu l'accident juste devant moi et que j'étais le seul sur l'autoroute, est-ce que je me serais arrêté ou j'aurais ignoré? J'aurais passé tout le droit en disant « Ah non, 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 j'ai une prédication à faire à Genève, c'est quand même important. Seigneur bénisse Tom. » Heureusement, il y avait 2-3 voitures de police, l'ambulance qui arrivait. Je me suis dit, il était en bien meilleures mains que les miennes. Non-assistance à personne en danger de mort éternelle. Vous savez quoi? Pendant 15 ans que j'ai habité à Genève, pendant 15 ans, les 15 premières années, j'ai jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Jamais. Dans le monde entier, quand je dis aux gens que j'ai grandi à Genève, les gens disent « Waouh, la cité de Calvin, incroyable, comment c'était ?» Eh bien, j'ai jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Jamais. J'ai jamais été invité dans une église. Jamais. Jamais. Évidemment, on avait les cours facultatifs à l'école, mais faut pas me la faire. Si ça remplaçait le français, j'aurais été tout de suite, hein. Mais si c'est en dehors des heures, Vous êtes dans la cité de Calvin, vous avez une responsabilité. Vous êtes membre de cette église, vous avez une responsabilité. Une responsabilité d'amour, pas une responsabilité de nombre. Vous n'avez pas une liste où vous devez mettre des coches, ça y est, j'ai fait ma BA. Non, vous avez une responsabilité spirituelle à être une bénédiction. Il y a une ou deux personnes qui sont d'accord avec moi. Je crois. Il me semblait qu'on était dans une église pentecôtiste, non? Peut-être que... J'ai découvert quelque chose très vite dans ma foi. C'est quand on est une bénédiction pour les autres, vous savez ce qui se passe? On est béni, automatiquement. Quand on est une bénédiction, on est béni. Quand on donne, on reçoit. Quand on prend du temps, on reçoit du temps. C'est absolument mathématique. C'est une de ces lois dans l'univers que quand tu donnes, tu reçois. D'ailleurs, le tout premier film au monde qui a été créé, qui n'était pas un documentaire, mais qui était une fiction, donc un petit scénario, c'est les Frères Lumière à Paris qui ont fait ça, en 1895. Et en même temps, c'était le premier film comique. Il durait 49 secondes et il s'appelait « L'arroseur arrosé ». Vous avez déjà entendu parler ça? C'est un gars qui essaie d'arroser, là, et puis il y a un petit jeune qui arrive derrière, qui met le pied sur le tuyau, puis le gars, il regarde son tuyau, puis évidemment, quand il a le tuyau comme ça, il lâche, et puis après, il est tout mouillé. C'est la même chose avec le Seigneur. L'arroseur arrosé. Vous voulez arroser? Vous serez arrosé. Vous voulez être une bénédiction? Vous allez être béni. En fait, les frères Lumière... Sur Wikipédia, ils disent qu'ils se sont appuyés sur quelque chose qui était vraiment à la mode à l'époque. Vous savez ce que c'était? Le Proverbe 11, verset 25. « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Youpi, hein? Même des films comiques sont inspirés par la parole de Dieu. Ma conclusion, j'aimerais qu'on revienne sur Abraham. On revient sur Abraham et ses trois premiers versets. Je ne vais pas vous reparler des versets, si on peut ne pas les montrer à l'écran. Ça, c'est le Proverbe 11, 25, merci. Je vais juste vous dire ce que je crois que j'ai pu comprendre dans ces quelques premiers versets de Genèse 12. Ce que je peux ressortir de ce texte, c'est que Dieu nous parle. Dieu nous parle même si on est pécheur. Il y a donc l'espoir pour chacun d'entre vous. Dieu nous défie de découvrir la culture de l'autre. Et une des choses que je vois qu'il y a une différence depuis 15-20 ans dans cette église, c'est qu'il commence à y avoir la couleur des nations. Je vois qu'il y a des gens qui viennent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Vous êtes les bienvenus. Et vous savez quoi? Il faut qu'on s'habitue, parce qu'il n'y aura pas trop de continents là-haut. Hein. On risque bien de passer l'éternité ensemble. Découvrir la culture de l'autre. Oui, c'est risqué, oui, ça fait peur. Mais on a tout à gagner, tout à gagner. Dieu nous offre de sortir de notre petite boîte, qui est beaucoup trop étriquée, de sortir de notre zone de confort. Dieu nous permet, non pardon, Dieu nous promet de nous parler quand on sera en mouvement. Dieu nous promet de nous parler. Et Dieu nous rassure. Ah, ça fait du bien. Des fois, on est quand même un peu tremblant. Hein. Dieu nous rassure. Il nous dit, tu sais quoi ? Être une bénédiction dans ton quartier, dans ton village, tu vas pas mourir. Tu prends pas beaucoup de risques. Le gros risque que tu prends, c'est d'être une bénédiction. Et en retour, d'être béni. C'est vrai aussi que Dieu nous avertit que les gens vont parler de nous. Ils vont parler de nos exploits ou de nos ratés. Oh, t'as vu, lui ? Il se dit chrétien, puis il fait ça. Et pourtant, ça travaille dedans. Et pourtant, le Saint-Esprit travaille au-delà de nos faiblesses. Et Dieu nous propose de devenir une source qui coule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Waouh ! Moi, j'ai envie d'être cette source de bénédiction qui coule sur ma femme, sur mes enfants, sur mes voisins, sur mes beaux-parents. Ils sont en voyage, ils partent ce matin en avion. Bénis-les, Seigneur. Non, je les aime énormément. On habite presque ensemble, ils habitent l'appartement au sud de chez nous. Être une bénédiction pour notre village, être une bénédiction pour notre région, être une bénédiction pour le monde. Dieu a prévu un plan aussi gigantesque que ça, c'est d'être une bénédiction pour le monde. Tu es prêt ? Être une bénédiction pour les tiens et pour ceux qui ne font pas partie de ton clan. Il affirme aussi qu'il sera avec nous et nous protégera. Et finalement, Dieu aimerait conclure une alliance avec nous, un partenariat, un win-win, là où on est gagnant et il est gagnant, parce qu'il n'a pas envie de faire ça tout seul. Il pourrait, et ça serait bien mieux et bien plus facile s'il faisait ça tout seul, mais il a choisi de partager les joies de la bénédiction avec nous. Quelques petites pensées, un petit mot d'ordre. Soyez attentifs quand vous êtes à la Migros, à la COP. Soyez attentifs quand vous êtes dans la rue. Soyez attentifs quand il pleut et puis qu'il y a quelqu'un qui marche sans parapluie. Soyez attentifs pour tout d'un coup saisir l'occasion et être une bénédiction. Et puis soyez aussi attentifs quand il y a un dialogue, quand il y a une pensée et que tout d'un coup, il y a possibilité de parler de votre foi. Le but, c'est pas de les convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le but, c'est simplement de dire « Moi, voilà ce que je vis. C'est pas parfait. Ma foi est pas parfaite. J'ai des difficultés de temps en temps. Mais tu sais quoi ? Dieu m'aime. Je peux prier au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Quand il y a ceci qui se passe avec mon fils, ceci qui se passe avec ma petite fille, je peux aller vers Dieu et je lui dis « J'en peux plus ! Aide-moi !» Et toi aussi, tu peux. Et si tu as envie, on peut faire ça ensemble. Tu veux qu'on prie ensemble ? Hein ? Prier ? Ici ? Mais on n'est pas à l'église. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas prier dans un lieu public ? On n'a pas l'interdiction, c'est interdit de fumer dans les lieux publics, mais pas de prier. Saisissons toutes les occasions pour être une bénédiction. Ce que je vous propose, c'est quelques secondes maintenant de silence. J'aimerais vous demander simplement de faire silence. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Et réfléchissez à quelle action vous pourriez faire cette prochaine semaine ? Pourquoi aller beaucoup plus loin ? Ou demain, ou aujourd'hui, quelle est la bonne action que vous pourriez faire pour être une bénédiction ? Et puis réfléchissez aussi à qui vous pourriez témoigner de votre foi. Une bonne action et un partage de votre foi. Je vous laisse dans le silence pendant quelques secondes. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, je te prie du fond de mon cœur pour que moi et ma famille, nous puissions te servir, pour que cette église puisse être une bénédiction pour Genève, que toutes les églises historiques, les églises évangéliques, charismatiques, les églises ethniques, puissent être une bénédiction. Seigneur, j'ai mal au ventre de ce qu'il y a tant de gens qui n'ont simplement jamais entendu parler de la bénédiction de te connaître. Je te prie, Père, que tu pardonnes notre péché, que tu nous aides à être aujourd'hui une bénédiction. Je te prie, Seigneur, pour cette assemblée, pour ces hommes, ces femmes que je peux voir ici, et je te demande qu'ils puissent rentrer dans une vie de plénitude, une vie où ils sont une bénédiction, pour qu'ils puissent rentrer dans leur appel, rentrer dans ce qui les attend, là où tu les attends, pour qu'ils puissent être multipliés et une bénédiction. Et puis je te prie pour ceux qui sont là, dans le doute, dans la souffrance, dans la question de « est-ce que je vais passer l'éternité avec Dieu ou sans Dieu ?» Et je te prie, Père, que ton esprit vienne, convainc chacun de nous, et spécialement ceux qui te cherchent, nous convainc de péché, de justice et de jugement, pour que nous soyons des hommes et des femmes forts en toi, pour résister au vent et à la pluie de la vie, et que nous puissions continuer, encore et encore plus, à être une bénédiction pour ce monde. Souffle par ton esprit, Seigneur. Amen. Merci.